au réseau Cogeco. Cogeco. Jusqu'à 15h, vous écoutez Mon Grain PM.
Malgré toutes les critiques que l'on a pu entendre, malgré la façon dont peut-être les choses ont été appliquées, les erreurs, les retards, il faut reconnaître que le gouvernement canadien a mis en place énormément de programmes de soutien aux individus, aux entreprises, par toutes sortes de façons d'injecter de l'argent dans notre économie. Mais cette réalité-là, évidemment, qui aide les individus, les gens, les Canadiens, les Canadiennes et tout le monde, c'est une situation qui est artificielle. Est-ce que, véritablement, au moment où tout ça s'arrêtera, on sera capable de faire face à ce qui nous attend, c'est-à-dire une baisse de notre activité économique, une certaine crise économique? Je vous dis ça comme ça, je pose la question, mais il y a des gens qui sont plus compétents que moi et qui peuvent avoir la réponse. Et ce matin, sous la plume du chroniqueur économique dans Presse Plus, Jean-Philippe Descaries, on apprenait que le champion de véritablement la déchéance, on peut dire, ou la crise économique, ce sont les États-Unis, avec un PIB en baisse de 32 %. Jean-Philippe Descaries, bonjour.
Bonjour, Jean-Luc.
Dites-moi, les États-Unis, c'est la force économique une des forces économiques mondiales. Et lorsque les États-Unis lui arrive quelque chose au point de vue économique, nous sommes touchés, nous, comme voisins immédiats et partenaires le plus important, de façon drastique. Est-ce que nous, on a la même situation qu'eux présentement?
Absolument. On vit à peu près la même chose qu'eux, sauf que nous, on est plus en sortie de crise. Évidemment, ça ne sera pas rapidement, puis ça va dépendre aussi de l'activité aux États-Unis. Mais aux États-Unis, le problème qu'on rencontre, c'est qu'il y avait une espèce de sortie là, en mai, juin, qu'on sentait bien, là, avec le déconfinement là, de tous les secteurs industriels et surtout du commerce au détail là, qui a repris là, avec les magasins ouverts sur la rue. Mm-hmm. Mais là, le problème aux États-Unis, c'est qu'on voit que la deuxième vague, elle est déjà là très présente. En fait, on n'a jamais quitté la première. Mais là, il y a vraiment une recrudescence de cas. Et là, on recommence à confiner des secteurs géographiques, des États. Certains parties d'États, on doit recommencer à cesser l'activité économique. Et la meilleure façon de l'évaluer, c'est que la semaine passée encore, il y a 1,4 million de chômeurs qui se sont ajoutés sur la liste de l'assurance-emploi aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment ce qui risque de retarder une reprise organisée au cours des prochains mois. C'est comment les États-Unis vont réussir à sortir du bourbier dans lequel ils semblent replonger présentement.
Bon, replonger, c'est presque plus dramatique que d'avoir une première fois plongé. Autrement dit, un reconfinement, et ce serait un dur coup à l'économie, peut-être encore davantage que celui qui a amené un PIB en baisse de 32 % au dernier trimestre.
Oui, effectivement, parce qu'effectivement, la baisse de 32 % est vraiment là, attribuable principalement à la fermeture presque totale de l'activité économique au mois d'avril. C'était le cas chez nous, c'était le cas aux États-Unis, mais pas avec la même rigueur aux États-Unis. Et c'est peut-être pour ça qu'on en paye le prix aujourd'hui, c'est qu'il y a certains États qui ont été plus laxistes et ces États-là qui étaient moins touchés dans la première vague sont aujourd'hui les principaux vecteurs d'éclosion aux États-Unis. Donc là-bas, on pêche un peu, on paye pour nos péchés là, du dernier trimestre, mais la baisse de 32,9%, donc, elle est attribuable au confinement forcé. Là, ce qui arrive, c'est qu'il n'y aura pas un confinement, et ça, le président Trump était très clair là-dessus, il était même ambigu durant le mois d'avril, il voulait déconfiner l'économie au plus sacrant. C'est ça, et au complet. Et là, c'est sûr qu'on ne refermera pas l'économie en entier, mais on n'aura pas le choix de fermer certains secteurs ou certains lieux géographiques, ce qui va perturber l'activité économique. Puis comme vous dites, les États-Unis, c'est la principale puissance économique mondiale et c'est aussi notre principal partenaire commercial avec le Canada. Et ça, c'est nos exportateurs qui vont y goûter parce qu'ils n'arriveront pas à écouler leurs produits aux États-Unis. Et on voit aussi que la reprise des exportations au Canada se fait vraiment plus lentement que souhaité.
À nos chiffres, à nous autres, ils sont pas aussi graves que ça, là? À quoi?
Nous, ils sont pas sortis. On a toujours un peu, environ un mois de retard.
Okay.
C'est le Canada qui sort les chiffres sur la croissance économique, alors qu'aux États-Unis, c'est le département du commerce qui, eux, les sortent rapidement. Puis après ça, ils font une espèce de mise à jour, là. Souvent, ils revoient la hausse ou la baisse, les chiffres qu'ils avaient avaient sorti préalablement. Nous, au Canada, c'est dans trois semaines, un mois qu'on va avoir les chiffres du deuxième trimestre. Mais déjà, Statistique Canada prévoit que l'économie canadienne va s'être contractée de 12 %
durant le trimestre. OK. 12.
Aux États-Unis, c'est 9,5 % quand on compare à l'an passé. Au Canada, le 12 %, ce serait par rapport à l'an passé. Donc, on est, nous aussi, tout aussi affectés qu'aux États-Unis en termes de ralentissement durant le deuxième trimestre. Mais là, on voit juste pour le mois de juin que l'économie a progressé de 4,5 % au Canada. Donc, il y a une reprise, nous autres, qui semble peut-être mieux enracinée pour l'avenir.
Mais notre reprise, à nous, est-elle indépendante du soutien des différents programmes que le gouvernement a mis en place? Autrement dit, est-ce que c'est une meilleure performance qui est un peu artificielle ou si c'est indépendant de l'aide au salaire?
Non, l'aide au salaire est absolument capitale dans la reprise actuelle. On regarde les dépenses à la consommation durant le mois de juin, elles ont augmenté de 18 % au pays. Ça, si les gens n'avaient pas eu la fameuse PCU que tout le monde critique, mais si les gens n'avaient pas eu ça, il n'y aurait pas eu ce rebond des ventes au détail et du commerce au détail de façon générale.
C'est ça, donc, ça injectait de l'argent dans le marché.
Absolument. Ça a permis à l'économie de reprendre vie et là, présentement, ça la maintient en vie et c'est pour ça que le gouvernement décide d'aller jusqu'en octobre avec la PCU, parce que si on abolit sur Air Notre rapidement, là, c'est évident qu'il va avoir un effet direct sur l'ensemble de l'activité économique, parce que tout le monde, ceux qui n'ont pas de revenus d'emploi, là, il y a quand même 11 % de chômeurs au Canada, eux vont vraiment ralentir l'élan qu'on a, parce que l'élan, comme vous dites, est maintenu parce qu'il y a de l'argent dans le système, parce que les ménages peuvent dépenser, ont un minimum au moins à dépenser pour faire marcher le reste de l'économie.
Jean-Philippe, quand je regarde ce que le gouvernement vient d'annoncer aujourd'hui, là, il y a peu de temps, là, il y a quelques heures, qu'il a l'intention de faire passer ce qui touche la prestation canadienne de la PCU là, sous le régime de l'assurance-emploi, ça veut dire qu'il ne voit pas une fin de cette situation-là pour demain. Là. Si on est déjà la PCU jusqu'en octobre, puis qu'il veut le transférer en mode d'emploi, on va passer l'hiver là-dessus, là.
Bien, certain, c'est sûr. Écoute, tout ce qui est le secteur là, du tourisme, le secteur de la restauration, c'est pas reparti. Là, on marche à 10 %, 15 % de l'activité habituelle et normale. Donc ça, c'est ces travailleurs-là qui n'ont pas retrouvé. Ceux qui travaillent dans le secteur du divertissement, du spectacle, du cinéma, ces gens-là n'ont pas de travail parce que l'activité recommence très, très progressivement.
Mais il faut continuer de les soutenir, c'est ça?
Exactement. Eux, tant que leur secteur d'activité ne reprendra pas vie, ben il faut eux au moins les garder en vie durant cette période-là. Mais là, c'est sûr que le gouvernement n'a pas le choix. Mais ceux qui vont pouvoir transférer de la PCU à l'assurance-emploi, c'est ceux qui avaient un emploi au moment du déclenchement de la crise. Parce qu'il y en a beaucoup de la PCU qui sont un peu des opportunistes, qui avaient un emploi d'été l'an passé, qui ont fait le 3 000 $ requis pour pouvoir s'inscrire, et là, qui vivent là, ceux-là. Ça, c'est le côté pervers de cette mesure-là. Il y a beaucoup de gens qui en profitent et qui ne se cherchent pas nécessairement un emploi, alors qu'il y a des secteurs d'activité où on a besoin d'emploi.
Mais un travailleur autonome, les travailleurs autonomes, eux autres, est-ce qu'ils vont être affectés par le transfert de la PCU à l'assurance chômage?
Oui, eux, ça va être plus compliqué parce que c'est déjà, écoute, c'est la croix et la bannière pour avoir droit à l'assurance emploi quand t'es travailleur autonome. Je sais pas comment ils vont faire, eux autres, pour pouvoir se reclassifier. Je sais pas si le gouvernement va modifier ces paramètres d'éligibilité, ces règles, mais là, effectivement, ça va prendre ça parce que c'est principalement cette clientèle-là qui n'est pas capable de se retrouver un emploi. Les emplois dans les dépanneurs, les emplois pour les étudiants, même dans les champs, ça, c'est des emplois, je veux dire, qu'on peut occuper là présentement, mais ceux qui ont un métier et qui veulent repratiquer ce métier-là, ben là, il va falloir attendre que le secteur reparte.
C'est une situation qui est mondiale. De sorte que, on fait toujours des références dans le passé. Est-ce que ça peut ressembler à la crise de 29, au crash de 29?
Oui, plus ou moins, parce que le crash de 29, faut se rappeler que ça s'est fait sur une période de temps. Là. Il y a eu le crash financier là, de 1929. Ouais. Après ça, il y a eu la crise économique qui a duré 5 ans, là, durant lesquelles, effectivement, toute l'économie américaine était vraiment tombée. Là. Toutes les assises, les fondements s'étaient effondrés. Là, nous, ce qui est particulier, ce qui est du jamais vu, c'est que tout ça s'est fait en 2 mois. Même le recul de 9,5% au deuxième trimestre, on a connu ça en 2008-2009. Oui. On a vu ça sur une période de 18 mois. Nous, ça s'est fait dans une période de 2 mois seulement. Alors, c'est la virulence de la crise qui est nouvelle. Et ce qui est nouveau, c'est de voir comment, justement, on va pouvoir rebâtir ce qui a été détruit. Et ça ne sera pas en 2 mois, ça va prendre plusieurs mois. Et ça va être possible quand les risques de contamination vont être évacués. C'est pour ça qu'on dit que ça prend un vaccin absolument pour que l'activité économique revienne au niveau où elle était, avant que les gens se mettent à voyager. Tout le secteur du transport aérien, de l'aéronautique, ça va prendre 2 ans, encore 3 ans, avant qu'on puisse revenir à la situation qu'on vivait avant la crise.
C'est assez paradoxal, parce que d'habitude, c'est les crises économiques qui rendent les soins de santé impossibles à être rendus, parce qu'on oui. n'arrive plus et les coûts sont importants. Là, c'est une pandémie qui nous amène dans une crise économique pour laquelle on va avoir des difficultés pour 2 ou 3 ans à venir.
Oui, effectivement. Puis, c'est une crise qui est arrivée très subitement et qui a été très, très violente dans un très court laps de temps. Et là, c'est la reconstruction de l'après-crise là, qui est ardue puis qui est vraiment pas aussi... se fait pas de façon égale partout. Il y a des secteurs, comme on disait, qui sont vraiment en retard. Ils vont prendre du temps encore. Et c'est pour ça qu'on a de la misère à mesurer ça va prendre combien de temps avant qu'on retrouve un niveau d'emploi équivalent à ce qu'on avait avant la crise. Là, ça risque de prendre du temps.
Dernière question. Tantôt, je parlais à un monsieur qui est en ressources humaines, qui est un conseiller en ressources humaines, puis un consultant dans le domaine. Puis, au fil de la discussion, il dit, tu sais, les gens, là, ils disent que passer une paye, là, ils se mettent en péril, là, s'il manque...
Absolument.
C'est-tu vrai? C'est-tu une légende urbaine? Ou bien non, c'est vraiment ce à quoi plusieurs personnes sont acculées, d'avoir la possibilité de survie économique après une paye?
Absolument. Je me souviens plus du pourcentage exactement, mais je pense que c'est une majorité de salariés, ceux qui sont payés à la semaine, à l'heure, qui vivent d'une semaine, d'un chèque de paye à l'autre et qui sont pas équipés pour justement échapper un ou deux cycles de paye. Donc, une fois que ça arrive, si tu manques ta paye pendant un mois, bien là, tu es vraiment dans le trouble. Il faut que tu empruntes. Il faut que tu te mettes en situation de crédit. Et c'est ça qui est dangereux là, présentement. Et c'est pour ça qu'on prolonge la PCU. Et c'est pour ça que le gouvernement va moduler là, peut-être un changement puis envoyer des gens de la PCU vers l'assurance-emploi. Parce qu'il y a beaucoup de gens là qui arriveront simplement pas, qui sont déjà... La PCU a permis au moins d'éviter les faillites personnelles massives. Ça a vraiment été, ça a été très efficace, puis je pense que c'est la bonne chose à faire. Mais là, c'est de retrouver l'équilibre entre la situation avant la crise, puis combien de temps on va les garder comme ça, en vie artificiellement, ces gens-là.
Parfait. Ben merci beaucoup, Jean-Philippe Descaries, de nous avoir éclairé là-dessus et d'avoir brassé le tableau.
Trop pessimiste.
Non.
Pas mais... trop pessimiste, mais c'est...
Mais
c'est
non, il faut être réaliste.
Voilà.
Merci beaucoup, Jean-Philippe
Descaries. Merci, Jean-Philippe.
Merci, au revoir. Jean-Philippe Descaries, chroniqueur économique à La Presse, bien sûr. Moi, là, je veux... t'as pas supposé, là, mais je veux entendre vos commentaires là-dessus. La limite... Est-ce qu'on est prêt à la gorge? Comment vivez-vous cette situation-là? Êtes-vous inquiet? S'il n'y avait pas eu de programme, est-ce que vous seriez dans le trouble? Avez-vous eu besoin d'aide des vôtres, des proches, des gens qui peuvent vous aider un peu plus? Avez-vous combiné vos dépenses pour essayer d'éliminer et faire des économies? Vous me rejoignez. Et puis, c'est fait sur le dos de l'anonymat, là, puis on questionne pas les capacités ou si vous avez été correct, pas correct. Je veux juste savoir dans quelle mesure on est tacoté au mur dans la situation que l'on vit présentement. 1-514-790-9850 si vous m'appelez de la grande région de Montréal et le 1-866-790-9850.
Les sujets de l'heure. Éditorial. Entrevue. Vos commentaires. Jusqu'à 15h, vous écoutez Mon Grain PM.
Comment vous organisez-vous dans la situation actuelle? Il y a de l'aide gouvernementale, bien sûr, mais est-ce que ça a fait changer vos habitudes? Comment vous organisez votre quotidien au point de vue financier? Êtes-vous capable d'endurer, de sauter une paye, admettons, parce que ça semble être les chiffres? J'en viens de parler à Jean-Philippe Descaries. On parle à Steve. Oui, bonjour.
Oui, bonjour, M. Mongrain. Félicitations pour votre programme. Je dois vous dire que c'est très apaisant de vous écouter à tous les jours.
Ah, c'est très gentil. Merci beaucoup, Steve. Alors, vous, comment ça roule?
Moi, je fais partie des privilégiés que ça va bien, mais j'ai été longtemps, comme vous le disiez, à vivre d'une paye à l'autre. Un jour, je suis venu à bout de me faire des économies, puis tranquillement, à me faire un coussin assez confortable.
OK. Mais qu'est-ce que c'est que de vivre d'une paye à l'autre? Parce que moi, j'ai été chanceux dans la vie, là, honnêtement. J'ai pas été jamais poussé à cette situation-là, à ce scénario-là.
C'est stressant. C'est stressant parce que tout va bien tant qu'il n'y a pas d'imprévu. D'une paye à l'autre, tu reçois ta paye, tu payes tout ce qu'il y a à payer, il reste 50-100 piastres pour faire jusqu'à la prochaine paye. Ça va bien tant qu'il n'y a pas d'imprévu.
Oui, certain. Il ne faut pas que le frigidaire pète, là.
Non, faut pas que le frigidaire pète. Faut pas se ramasser au chômage sur la PCU du jour au lendemain, comme il m'est arrivé au mois de mars.
Et là, comment ça va?
Ça va bien. Et comme je dis, moi, mon coussin il a diminué beaucoup, ce qui a nécessité que je change la façon de consommer de moi et de ma famille. Avec les enfants, on allait au restaurant presque tous les fins de semaine. On allait magasiner, on dépensait beaucoup. Puis là, quand le coussin il a diminué, on s'est dit, on va le temps que les choses se replacent, on va manger plus à la maison, on va cuisiner, on va acheter ce qu'on a de besoin.
Mm-hmm. Ce qu'ont vécu nos grands-parents, souvent, ils ont vécu ces situations-là dans le passé. Nous, on a oublié ça. On a vécu quelques années d'âge d'or, malheureusement. On n'était peut-être pas préparés ou on était dans un monde de surconsommation. Puis on se dit, là, en vivant ça, coudonc, c'est-tu vraiment nécessaire, c'est le livre de choses, comment ça s'appelle, là?
Exactement.
Merci beaucoup, Steve. On parle à Robert maintenant. Au revoir. Oui, Robert.
Bonjour, M. Mongrain. Ça va bien?
Ça va bien, vous?
Oh, oui. Moi, je vais répondre à votre question bien simple.
OK.
Je vais vous simplifier ça. Moi, j'ai 73 ans. OK. J'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans pour des petits contracteurs, construction, etc.
OK.
J'ai toujours travaillé à des salaires bas, jamais dans une entreprise où il y avait des fonds de pension, etc. Donc, quand je me suis ramassé à 65 ans, avec ma grosse pension du fédéral, avec des petites rentes, puis j'ai pas d'oncle là-dedans, là, ça me donne à peu près 1500, mettons 1600 piastres par mois pour vivre, OK? Là-dessus, il faut que je mange mon électricité, mon téléphone, payer quelques petites affaires. Et surtout, avec le coût de la vie d'aujourd'hui, manger. Payer mes petites taxes, parce que je suis chanceux dans ma chambre, parce que j'ai pu me ramasser une petite maison, une petite cabane pas chère là, dans le temps. Là. Mais c'est ça la vie. Fait que ceux là, qui se plaignent, là, qui ont des payes à tous les semaines de 700-800 piastres par semaine, là, ben, ramassez-vous quelques piastres, parce que quand vous allez arriver à votre pension, là, si vous n'avez rien ramassé, vous allez en manger du bœuf haché et du spaghetti, OK?
Merci beaucoup de votre témoignage et de votre courage de le dire, parce que cette leçon-là est plus importante que n'importe quel banquier, n'importe quel économiste, n'importe quel spécialiste en budget. Vous nous dites qu'il faut se préparer et pas faire comme la cigale. Merci.
Et
à
voilà.
Qui je parle maintenant? Merci beaucoup. Michael, bonjour.
Bonjour, M. Mongrain.
Bonjour.
Je suis chef des ressources humaines dans une entreprise de retail dans le domaine de la mode. J'ai récemment mis 85% de mes employés à la porte. Un chômage. Non, c'est pas facile. Puis pour répondre à votre question, là, il y a, tu sais, le mythe urbain, là, c'est qu'on se dit ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens, c'est ceux qui gagnent 15, 16, 17 $ de l'heure. Mais je vais vous dire, M. Mongrain, là, j'ai eu des hommes, j'ai eu des femmes de 40, 45 ans avec des salaires de 60, 70 000 par année. Puis il y avait ce salaire-là depuis belle lurette, là. Qui pleuraient devant moi parce que, mais là, qu'est-ce que je vais faire avec la deuxième auto? Qu'est-ce que je vais faire avec le scooter que j'ai acheté à mes enfants? Et qui ont jamais, mais jamais économisé une scène de leur vie, que l'argent qui rentrait et sortait quasiment automatiquement. Le grand danger d'une grande dépression, si la chose de la COVID se poursuit, c'est pas pour les petits salariés, là, mais c'est pour ceux qui étaient sur 50, 60, 70 000 par année et qui croient que c'est éternel, ce salaire-là. Et il est là le plus grave danger, surtout au Québec.
Que c'est important ce que vous venez de dire là, parce que quand ça va bien, tu augmentes ton train de vie. Fait que quand tu augmentes ton train de vie, tu ne penses pas qu'il va venir qu'à baisser. Et ça peut arriver. C'est arrivé aux employés qui se sont mis à pleurer devant vous. Et ça, c'est pas facile à vivre et à rencontrer.
Ben pas du tout. Puis ça va avec. Puis je suis désolé, je vais pas prendre beaucoup plus de votre temps.
Allez-y.
Mais ça va avec le réflexe que ce soit bon ou pas bon, l'État va toujours être là pour nous. Mais je suis désolé, là, mais ceux qui reçoivent, il y a un coût aux 2 000 $ par mois. Il y a un coût avec tous les programmes gouvernementaux. Puis parfaitement d'accord avec ces programmes-là, mais il y a un moment donné, le balancier va revenir de l'autre côté. Et c'est là où ça va être ce que j'appelle le deuxième Big Bang qui va frapper et qui va avoir des coupures massives dans les programmes. Sauf qu'on dirait que les gens pensent que l'argent pousse sur les arbres. Quand je vais arriver à la retraite à 65 ans, il y a automatiquement peut-être que l'argent de mes parents qui vont me laisser à leur mort. Il y a peut-être un oncle qui va me laisser de l'argent. Et moi je regarde ça puis je me dis, mais c'est incroyable. Déjà qu'on trouve que nos impôts sont élevés, mais ça va être encore beaucoup plus élevé plus tard.
C'est sûr qu'il y a des générations qui vont payer pour. Peut-être pas ceux qui vont... mais il va avoir un impact fiscal important ou des coupures de services ou des coupures dans des... Quand je parle de fiscal, des programmes qui déjà existent, comme un impôt sur la richesse, par exemple, ou l'impôt au moment du décès, etc., etc. Il va y avoir des modifications fiscales parce que c'est beau, là, on dit qu'un pays vit longtemps puis qu'il y a une espérance de vie, mais il y a des services à payer. Le service de la dette est à payer. Si tu ne payes pas ta dette, tu payes les intérêts. Il y a des services de santé, etc., etc. Ça serait épouvantable. Merci beaucoup de votre expérience, de l'avoir partagée avec nous. Parce
que vous avez une belle fin de journée.
Ben merci et bonne fin de semaine malgré tout. Bonjour Mario.
Salut, comment ça va?
Ça va pas pire. Vous?
Ben ça va très bien.
Good.
Moi, dans le travail que je fais, pour protéger un peu l'identité, là, je vais éviter de dire les secteurs que je fais de la livraison.
Parfait. Okay? Oui, c'est correct.
Dernièrement, il y a une place qui m'a marqué vraiment. Là. J'ai livré, c'était dans un logement, dans le fond, puis le monsieur lui a répondu, son enfant de 7 ans à côté de lui, il était tout content, puis il a dit, c'est quoi ça, papa, est-ce que c'est d'autres manger? J'ai vu le désastre, là, vraiment, dans le visage du monsieur. Le cœur, il m'a arrêté de là. Là.
C'est vrai. On ne sait pas, on ne connaît pas et on ne sait pas ce qui se passe derrière des portes closes, des volets tirés, quand on fait ding-dong puis que la porte s'ouvre, dans quel état peuvent être les gens. Et c'est là où il faut comprendre que si... Il y a un message très important dans ce que tu viens de me dire là, Mario. C'est que tous ceux qui résistent à la réalité de la pandémie, là, tous ceux qui disent que ça n'existe pas, là, tous ceux qui ne veulent pas porter le masque, là, ben ça, ce sont des gens qui risquent d'endommager la santé économique des gens.
Oui, oui, ça, c'est ça. T'sais, moi, j'ai la chance, dans le fond, j'ai un bon travail. La pandémie, pour nous autres, c'est le contraire, ça l'a monté.
Oui.
T'sais, j'ai jamais manqué de job, rien, mais quand que j'en regarde d'autres, vraiment, là, on se rend compte que c'est désastre total.
C'est pas drôle. Honnêtement, c'est pas drôle. Merci beaucoup, Mario, de votre
témoignage. Ça fait plaisir. Je te souhaite une bonne fin de journée, M. Mongrain.
Mais merci, vous aussi, Mario, et bon week-end, bonne fin de semaine.
Merci.
La réalité qui nous touche, c'est celle-là. Alors, si vous y croyez pas, si vous êtes à l'abri de ça, si vous êtes le Superman de la COVID puis qu'il n'y a aucun problème, pensez donc votre beau-frère, votre belle-sœur, votre frère, votre père, votre mère, votre oncle, le voisin. C'est un gars qui peut tomber dans « ding-dong ». Papa, c'est-tu de la nourriture? Ça peut arriver, ça. Un autre Mario. Bonjour, Mario.
Hey, bonjour, vous. Ça va?
Ça va bien, merci. Vous-même?
Oui, moi, je voulais dire, avec la COVID, au lieu de perdre de l'argent, j'ai gagné de l'argent.
Qu'est-ce qui est arrivé là?
Ben, je suis camionneur.
OK.
Je vais aux États-Unis, j'ai pas arrêté.
OK.
Sauf que toutes mes prêts, toute l'équipe, tout ça, je les ai coupés, mais sauf que je continue à les payer pour le mettre dans un compte épargne. Ben, ça a monté.
Bon. Ça fait que vous, c'était une opportunité d'augmenter vos revenus, puis donc de pouvoir épargner davantage. Ça fait que vous êtes prête à si ça va aller plus mal, vous êtes prêt.
Oui, j'ai un bon coussin.
Ben tant mieux.
Mais vu que je vous ai.
Ouais.
Nous autres, on va aux États-Unis, on est à risque, mais on n'a jamais eu rien du gouvernement. Ça, je voulais le dire, ça fait longtemps. Ils en ont donné à des jeunes qui n'ont pas été travaillés à cause qu'ils recevaient de l'argent
okay, par vous, mois. Puis tout. Là, c'est intéressant ce que vous me dites. Là. Alors, vous êtes en santé, vous travaillez, vous fournissez des biens et services à nous autres ici au Canada. Vous êtes à risque parce que vous voyagez, vous traversez les frontières, vous côtoyez des gens là-bas qui sont moins soucieux de la santé. Et vous revenez ici, vous dites, moi, j'ai eu aucune augmentation, aucun soutien de qui que ce soit, et je suis un employé de première ligne. Peut-être pas comme les gens de la santé, mais je suis un employé qui est essentiel.
Un peu qu'on peut dire ça.
OK.
Pour ça que ça me choque un petit peu, moi.
Ça peut être frustrant à l'occasion, surtout quand tu vois qu'un gouvernement est prêt à 900 millions pour payer des bénévoles. Là. Je ne l'ai pas encore compris, celle-là, mais en tout cas. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin de semaine.
Est-ce qu'on
s'arrête? Merci, au revoir. Bonne chance. On s'arrête pour une pause? On s'arrête pour une pause.